auditeurs, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que nous n'avons pas de standard ce soir, mais vous pouvez envoyer vos messages, vos questions par courrier électronique. Nous aurons plaisir à les proposer à notre invité. Je rappelle à cet effet l'adresse de la radio, l'adresse internet courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Et nous abordons donc cette deuxième partie, toujours en direct. Les lieux décrivent parfois l'histoire en nous permettant de la redécouvrir de manière concrète et vivante, si ce n'est incarnée. Certains de ces lieux sont méconnus, voire oubliés, malgré les trésors d'énergie de nombreux passionnés par l'histoire et par notre mémoire qui essaie effectivement de les mettre en valeur. Il en est ainsi de la salle du Jeu de Paume qui est située à l'ombre du palais de Versailles, au cœur du quartier historique de cette ville. Et pourtant, dans cette salle, il y a eu le fameux serment, le serment du Jeu de Paume. Mais si ce serment n'avait pas eu lieu, le cours de la Révolution aurait-il été identique? C'est une question d'ailleurs que nous poserons à notre invité ce soir. Car la Révolution commença, alors principalement, peut-on dire, à Versailles, entre la salle des menus plaisirs, qui recueillit tout d'abord les états généraux, mais qui est une salle disparue, la cathédrale Saint-Louis, qui est toujours là, elle, et cette fameuse salle du Jeu de Paume. C'est une salle qui est évocatrice, et sa visite, en effet, nous rappelle cette histoire. Ce fut une histoire courte, mais décisive. C'est un lieu de mémoire hautement symbolique, mais qui souffrit de nombreuses tribulations, qui semble, espérons-le en tout cas, s'achever avec la récente et belle restauration qui la met en valeur. Et d'ailleurs, je le précise, c'est une visite qui est gratuite. C'est cette histoire passionnante que raconte François-Guillaume Laurin dans son ouvrage d'histoire incarnée. C'est un recueil, hein, ces lieux qui ont fait la France, et c'est publié aux éditions Tempus, qui rassemble justement de nombreux chapitres consacrés justement à ces lieux qui ont fait l'histoire. Et François-Guillaume Laurin consacre un gros chapitre à l'histoire du Jeu de Paume, du serment du Jeu de Paume, et bien sûr aux tribulations de cette salle du Jeu de Paume. C'est un ouvrage d'ailleurs qui est passionnant, dont je conseille la lecture, parce que c'est, comme je le disais, très incarné, et c'est raconté de manière très sensible et évocatrice à la fois de la grande histoire, mais aussi de la petite histoire. Et puis, si nous avons le temps, ce n'est pas certain, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la salle du Jeu de Paume et ce sermon, eh bien, nous évoquerons la mémoire de la Révolution française, un sujet qui est cher à notre invité à travers, à Paris, à travers les plaques et les noms de rue. Donc vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir François-Guillaume Laurin pour ce chapitre consacré donc à la salle du Jeu de Paume dans ce recueil, ces lieux qui ont fait la France, qu'il publie aux éditions Tempus. François-Guillaume Laurin, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir autour de cette histoire qui est passionnante et assez méconnue, dans un endroit qui est pourtant intéressant, mais fort peu visité. C'est ce que vous constatez le début de votre chapitre. Je vous présente de nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir pour vous lire à de nombreuses reprises. Vous êtes normalien, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de lettres modernes, et puis aussi vous êtes rédacteur en chef des pages histoire de l'hebdomadaire Le Point. Vous avez écrit un certain nombre de livres, des romans, des enquêtes, des livres d'histoire, et je vais en citer quelques-uns, parce qu'on ne peut pas tous naturellement les cités. Donc, je rappelle, hein, ces lieux qui ont fait la France, d'abord chez Fayard en 2015, et maintenant une nouvelle édition complétée aux éditions donc, Tempus. J'ai été intrigué par ce titre, alors, je ne sais pas, c'est Vent, maison de famille, chez Flammarion. C'est un roman, qu'est-ce que c'est?
C'est un roman autour d'une maison de campagne particulière où j'ai eu le plaisir d'être et le déplaisir à la fois d'être élevé. Et voilà, ça raconte l'histoire d'une famille à travers l'histoire d'une maison de campagne pendant 50 ans.
Et vous l'avez vendu alors, vu ce titre?
Ah mais vous savez, il faut se méfier parfois des titres. Vous savez, L'assassin habite au 21, si vous croyez le titre, vous allez être mené par le bout du nez jusqu'à la fin.
Bon, donc vous l'avez toujours cette maison de sa vie alors. C'est ce que je m'interrogeais, parce que comme vous aimez beaucoup les lieux de mémoire, et que vous y attachez...
C'était l'histoire d'un lieu aussi,
oui, d'un lieu un peu personnel. Je ne vous imaginais pas en train de vendre la maison de famille. Peut-être d'autres dans la famille.
Vous avez raison. Donc vous avez vendu la mèche. Non, non, non. Mais bon, ça fait un peu annonce, comme ça. Comme vous savez, les annonces, une annonce immobilière.
Ah oui, vous avez réussi votre coup, puisque je vous en parle dans
notre... Non, elle n'est pas à vendre, alors.
Dans notre production. Et puis, vous avez écrit, c'était le premier livre pour lequel j'ai eu le plaisir de vous recevoir. C'est un livre enquête. Le titre, c'est « Vous êtes de la famille à la recherche de Jean Kopitovitch ». C'est chez Flammarion en 2019. Et vous avez eu le prix du livre d'histoire contemporaine, entre autres, pour ce livre. Et puis alors, aussi un livre très, très original, « Roue libre ». Enfin, très original. On est dans le milieu du sport. Hein. « Roue libre », c'est beaucoup le vélo, le Tour de France. Pardon, l'histoire de France. C'est ça que vous avez publié aux éditions du Cerf. En 2005, et logiquement, vous avez d'ailleurs le prix Louis Nucera, parce que Louis Nucera a aussi beaucoup écrit hein, sur le vélo, et notamment sur le sport. Et d'ailleurs, vous avez aussi, je le précise, hein, reçu le prix Jules Rimet, sport et littérature, pour aussi un autre ouvrage à caractère sportif, c'est le garçon qui courait.
Oui, c'était sur le champion olympique du marathon à Berlin en 1936, qui était un Coréen qui avait gagné sous le maillot japonais lorsque le Japon avait annexé la Corée.
Et puis, signalons aussi ce livre pour lequel aussi vous avions reçu « Il fallait bien les aider quand les justes sauvaient les juifs en France ». Chez Flammarion, c'était en 2024. Vous avez été finaliste hein, du prix Renaudot-Issé et vous avez eu le prix Guizot pour ce livre. Pardon. Le prix Guizot, c'est le prix d'histoire hein, de l'Académie française. C'est un très beau prix. Et je le précise parce que vous venez de publier ce livre en collection poche, un Tempus, comme on dit maintenant.
Oui, avec une postface inédite où je raconte deux années de conférences, puisque ce livre m'a donné l'occasion de sillonner la France, de rencontrer beaucoup de gens, d'entendre beaucoup d'histoires. Dans un contexte très tendu, voilà, avec la recrudescence de l'antisémitisme. Et donc, je raconte dans une longue postface un peu cette mémoire écoulée depuis la sortie du livre il y a 2 ans.
Alors, comment t'expliquer François-Guillaume Laurent et comment vous avez le corollaire de cette question, c'est comment avez-vous été amené à vous intéresser à la salle du jeu de paume? Quels sont les lieux qui sont connus et encore commémorés de la France révolutionnaire en France? Et la salle du jeu de paume n'en fait pas partie, puisque c'est très peu connu, c'est très peu fréquenté.
Oui, c'est justement parce que c'est très peu connu, très peu fréquenté, que je savais très peu de choses sur ce qu'était devenu. Hein, en même temps, le mot résonne, le serment résonne, on le connaît tous, enfin, au moins de nom. Peut-être on peut avoir un problème pour le situer dans le temps, exactement. Mais je m'étais dit, mais quelle était cette salle et qu'est-ce qu'on en a fait? C'est un peu le leitmotiv de mon livre, c'est-à-dire c'est vraiment raconter les fortunes et les infortunes des lieux d'histoire en France. Et parce que je ne savais rien, sinon vaguement qu'elle était vie bien sûr à Versailles, mais... Bon, on ne joue plus au jeu de paume, sinon dans quelques endroits réservés en France. Je suis parti, comme toujours, de mon ignorance et de ma curiosité et de l'envie de savoir, de remplir ces trous. Et donc, j'ai été tout de suite frappé par ce contraste, justement, entre ce point de démarrage de la révolution politique qui se déroule bien à Versailles, qui en lui-même, de manière globale, est un chapitre assez peu connu hein, de nos contemporains, qui a été, je dirais, un peu occulté, balayé. Est-ce que parce qu'il est moins, il est compliqué à comprendre pour des gens d'aujourd'hui, vous savez, cette confrontation, cette réunion des trois ordres. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces trois ordres, ces votes, est-ce que ce basculement du vote par ordre aristocratique, ecclésiastique, le tiers état. Bon, voilà, alors on va décider maintenant non plus de voter par ordre, mais par tête, par député, on va dire. Enfin, tout ça n'est pas très, peut-être, attirant, très séducteur, très séduisant. Et donc, ça a été, je pense, très vite recouvert par quelque chose de plus spectaculaire, de plus sanglant, de plus frappant, de plus grand public, je dirais, qui est la Révolution, le second temps de la Révolution, qui est la Révolution parisienne, mais qui commence avec ce moment qui est inscrit dans nos mémoires, quoi qu'on en pense, la prise de la Bastille.
Ah, tout commence par là.
On pense que tout commence par là, alors que non, il s'est déroulé un immense épisode au mois de juin, au moment de la réunion des États généraux, qui est en lui-même aussi assez compliqué, des valses, des hésitations, un bras de fer entre les forces monarchistes, les députés du tiers état. Enfin, et par ailleurs, il y a un déficit, je dirais, global de la période dans laquelle s'inscrit le serment du jeu de paume du 20 juin. 1789, donc 24 jours avant la prise de la Bastille. Et puis, j'ai voulu faire ce chapitre parce que je me suis dit, mais tiens, au fait, qu'est-ce qu'on a fait plus globalement à Paris et à Versailles des lieux de la Révolution? Et j'étais très frappé par une sorte de disparition, de destruction. Si on résume, les lieux, en fait, bon, la Bastille évidemment a été détruite après sa prise, vous demandez aux gens qu'est-ce que commémore la colonne, ils vont vous dire spontanément 1789 et l'épisode révolutionnaire. Eh bien non, c'est une autre révolution, parce qu'en France on a fait beaucoup de révolutions à un certain temps, au 19e siècle, et la colonne commémore 1830. Et c'est très intéressant que le roi qui a voulu commémorer 1830, la révolution de 1830, Louis-Philippe, le roi des Français, qui arrive au pouvoir avec cette révolution, qui pourtant a été du côté des armées révolutionnaires jusqu'en 1793, puisqu'il est le fils de Philippe Égalité, donc un fils, il n'est pas du tout, avec son clan d'Orléans, du côté des Bourbons, d'une certaine manière, camoufle et occupe avec la révolution de 1830 le lieu de démarrage de la révolution de 1789 à Paris. Là, on voit bien qu'il y a un jeu mémoriel entre les deux révolutions. Et l'autre lieu majeur, enfin les deux autres lieux majeurs politiques de déroulement de la révolution à Paris, ce sont bien sûr l'Assemblée constituante, qui va devenir l'Assemblée législative, et ensuite la Convention après la proclamation de la République. Ces deux lieux, donc là, ce qu'on appelait la salle du manège, où se réunissent pendant trois ans les députés, entre 89 et 92, là où aujourd'hui on a la rue de Rivoli, au milieu, on va dire, du jardin des Tuileries, et puis la salle des machines, qui, alors celle-là appartenait au sein même du palais des Tuileries en 1793, c'est-à-dire que les révolutionnaires occupent les lieux mêmes de la monarchie, ont disparu. Napoléon détruit la salle du manège vers 1800 pour deux raisons. Parce qu'il efface beaucoup de lieux de la Révolution. Très vite, on efface les lieux mêmes, les lieux centraux de la Révolution. Et pour une autre raison, on va dire architecturale et urbaine, il est en train de construire la rue de Rivoli. Et elle est là, elle passe au milieu de ce qui va devenir la rue de Rivoli. Mais il va détruire beaucoup d'autres lieux le long de cette rue de Rivoli, qui sont d'autres lieux majeurs de réunion, les fameux grands clubs, club des Feuillants, le club des Jacobins, enfin tous ceux, ce sont des noms qui nous disent quelque chose, mais qui disparaissent dès 1800, pratiquement. Et l'autre, la salle des machines, qui va perdurer avec les Tuileries, qui va redevenir une salle de théâtre, et qui évidemment disparaît avec les Tuileries. Donc en fait, à Paris, alors on pourra, et si on en reviendra à la fin de l'émission, trouver comme ça des micro-lieux, dans d'infimes plis, mais qui échappent presque à tout le monde, parce qu'ils sont quasiment invisibles, des lieux de la Révolution. Mais ouais. La salle du jeu de paume était finalement, parce qu'elle, elle subsiste, un lieu majeur qu'on pouvait aller encore visiter.
Et étonnamment, on connaît mal cette histoire, on connaît mal l'histoire des États généraux, au menu plaisir, qui ont disparu, on connaît mal cette histoire du sermon du jeu de paume, et encore moins, effectivement, cette salle du jeu de paume. Mais comme vous l'avez précisé, pour beaucoup d'entre nous, la Révolution, c'est la prise de la Bastille, et ce sont les journées d'octobre, où les femmes de Paris viennent chercher le roi, massacrent déjà les premiers gardes, et les ramènent de force à Paris, inaugurant en quelque sorte une histoire violente. Et les questions que je souhaitais aussi vous poser, est-ce que cette salle est ignorée? Est-ce que cette histoire est relativement méconnue parce que les acteurs de ce serment ont pour beaucoup d'entre eux connu un destin tragique, guillotiné? C'est frappant parce que
cette
salle a été restaurée,
oui.
Donc récemment,
oui.
C'est une belle restauration. C'est vrai que, vous le soulignez d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose en tant que tel, il y a la salle proprement dite, mais on peut s'imaginer quand même aisément les choses. Il y a le tableau de Merson, là, ou sa reproduction qui figure bien les choses.
Mais vous voulez dire le tableau de David aussi.
Oui, mais c'est Merson qui l'a...
Oui.
Ouais. Il y a une histoire particulière. Et alors, pardonnez-moi, mais tout ça est bien compensé par l'animation qu'ils ont mis en place, un peu. C'est auditif.
Il y a du progrès.
Oui, c'est ça, exactement. Et on peut. Il y a des très bons commentaires audio qui sont faits concernant chaque acteur quand on se trouve devant leur statue, etc., ou leur buste, et on se rend compte que la plupart d'entre eux ont très mal terminé. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle...
Oui, c'est une des raisons, c'est-à-dire que c'est l'évolution du cours de la Révolution. C'est-à-dire que quand on voit la commémoration du lieu, il est, pour la première année, par exemple le 20 juin 1790, très vite, on fait une grande plaque, Versailles a bien mérité de la patrie, on fait une autre plaque, ils l'avaient juré, ils ont tenu parole, sur le lieu même, à l'entrée de la salle. On lance le grand projet du tableau de David, qui est un projet immense, très vaste, puisqu'il va occuper un immense lieu à Paris pour le peindre. Il va voir une grande partie des députés pour les représenter de manière assez réaliste. Il va y avoir le grand poème de Chénier, tout de suite, qui commémore ce serment du jeu de paume. Il est au début, on va dire les deux premières années, le livre d'or de la Révolution. À tel point que le 20 juin 1792, c'est-à-dire 3 ans après, les Girondins, ceux qui ont à ce moment-là le pouvoir, choisissent cette date, le 3e anniversaire, alors qu'ils viennent d'être renvoyés, ce qui concerne les ministres, par Louis XVI, pour se réunir et marquer le coup. Mais c'est une journée qui tourne mal, qui tourne à la violence, et de manière assez ironique, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que le 20 juin 1792 va remplacer, d'une certaine manière, le 20 juin 1789. Déjà, là, il va y avoir une strate supplémentaire qui se rajoute, une couche qui va un peu occulter la première couche du 20 juin. Ensuite, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, les acteurs, les protagonistes de ce serment, qui vont devenir essentiellement des Girondins, vont quasiment être tous guillotinés. Bailly, qui va être à l'origine du serment, qui va D'ailleurs, on trouve une représentation de Bailly
dans la salle.
Avec sa statue. Hein, c'est sa statue, hein, c'est la seule statue de Bailly,
bûches,
qui va devenir tout de suite le président de cette assemblée qui se constitue elle-même et qui décide d'être la représentation de la nation, dans quelque endroit que ce soit. Bailly, qui va devenir le premier maire de Paris à partir du mois de juillet, juste après la prise de la Bastille, qui est un grand scientifique, hein, qui est un astronome, membre des trois académies, le seul dans l'histoire de France à être membre des trois académies avec Fontenelle. Bailly, maire pendant 2 ans de Paris, jusqu'à l'histoire de la fusillade du Champ de Mars, 17 juillet 1791, où d'ailleurs, en fait, il est manipulé par l'Assemblée constituante. C'est pas lui qui donne l'ordre de feu, mais on va lui faire plus tard, au moment où les Girondins perdent le pouvoir, porter le chapeau. Dans le procès de Fouquier-Tinville, c'est le grand chef d'accusation. Il est guillotiné en 1793. Barnave, gros, grand personnage également. Mais vous avez aussi Rabault-Saint-Étienne, qui représente du côté des prêtres, les protestants. Vous avez aussi l'abbé Grégoire. Enfin, tous ceux-là vont perdre le pouvoir à partir de 93. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que David, le peintre, qui a senti le vent tourner, arrête et renonce à faire le tableau parce qu'il sent que ça devient dangereux de faire la gloire et l'apologie de ces gens-là qui sont tous guillotinés. Donc, courage Fuyon, cet homme qui a toujours été dans le sens du vent et tout près du pouvoir, décide qu'il est urgent d'arrêter ce tableau dont il ne reste qu'une ébauche. Mais vous le mentionnez, donc cette ébauche, ce n'est pas l'original qui est dans la salle du Jeu de Paume. Et on voit bien là, les deux poids deux mesures dans l'importance des lieux. Qu'est-ce que fait l'original du tableau de David dans le château de Versailles? Franchement, parce que c'est quand même le lieu de la royauté, alors qu'il il est passé un moment par le Louvre, sa place est là où ça s'est déroulé. Mais la salle du Jeu de Paume n'a droit qu'à une copie. Et on voit bien donc ce désavantage, ce discrédit de cette salle qui a toujours été considérée comme quantité négligeable et dont on a fait tout et n'importe quoi pendant 2 siècles.
On parlera de l'histoire de la peinture parce que en soi, c'est c'est une histoire incroyable, celle de la peinture initiale de David, puis après cette copie, mais c'est une belle copie de Merson. C'est quand même une magnifique copie.
Oui, mais moi, c'est le principe de la copie, l'original.
Plus loin qu'a fait David.
Oui, mais
on va en parler. Hein.
je trouve que je me suis battu dans ce chapitre pour... Et d'ailleurs, quand je l'ai fait, j'ai reçu de la part du château de Versailles une sorte de fin de non-recevoir. On n'a pas le temps pour vous... parce qu'on n'a pas le temps pour vous parler de la salle du Jeu de Paume. Et heureusement que j'ai trouvé un guide formidable, un vieux guide.
Sans doute le même, d'ailleurs.
De la ville de Versailles, puisque c'est la ville de Versailles qui a repris la salle. Parce que le château sont désintéressés. Donc
le château est toujours propriétaire, je crois.
Toujours un propriétaire, mais la gestion est confiée à la ville qui a voulu et qui a protesté, en fait. Qui s'est dit, mais c'est tout de même le lieu d'histoire. Et alors, précision peut-être sur la salle des menus plaisirs, en tant que telle, elle est toujours là. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce que quand les trois ordres se réunissent, la structure en dur, qui est toujours debout, qui est en fait héberge le centre de musique baroque, est réservée aux ordres ecclésiastiques et aristocratiques. La noblesse et l'Église.
Ils sont dans le dur.
Quand le tiers-état avec les 620 ou 630 députés arrive, on leur construit une sorte de faux plancher dans la cour. C'est cette structure-là
qui a
va être détruite. Oui. Donc, on fait disparaître dans la ville de la monarchie, au XIXe siècle, la structure de la bourgeoisie, du peuple. C'est très intéressant. Et là, aujourd'hui, quand vous y allez... Bah, d'ailleurs, l'endroit est plutôt fermé, mais vous n'avez que les traces au sol, dans la cour, de ce qu'était l'endroit où quand même les députés se sont constitués. Et c'est là qu'ils se sont constitués en tant qu'assemblée.
On va parler de cette histoire qui commence le 5 mai 1789, qui n'est plus vraiment de cette salle des menus plaisirs. Mais cette salle a été construite pour...
Oui, parce qu'il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place pour.
C'est une structure provisoire.
Provisoire, mais qui aurait pu être pérenne. Ça dépend.
Oui,
vous savez, la mémorialisation, c'est toujours une question de décision. C'est-à-dire, on décide, on peut détruire du dur parce qu'on décide de ne plus le voir. On peut aussi pérenniser du provisoire.
Oui. Alors, je vous propose que nous rentrions dans l'histoire, justement. Du serment et bien naturellement de cette salle du jeu de paume où vous faites tout commencer, François-Guy Blouron, dans ce chapitre de votre recueil « Ces lieux qui ont fait la France » que vous publiez, donc republiez d'ailleurs, dans une version qui est augmentée, révisée, donc dans la collection « Tempus », vous faites tout commencer au 5 mai 1789.
Oui, bien sûr, parce que convocation des États généraux, parce que depuis un an, après l'échec de l'Assemblée des notables en 1787, dans les régions, les parlements sont réunis. Et d'ailleurs, l'idée du serment reprise des États du Dauphiné, qui se sont réunis dans le château de Vizy, où vous avez aujourd'hui le seul musée de la Révolution française, hein, près de Grenoble. Et à Vizy, les députés du tiers-état ont fait déjà un serment. Donc l'idée du serment, elle est née aussi à l'hiver 1789, à Vizy. Elle est reprise là. Alors c'est un petit peu compliqué la chronologie, mais en fait il faut commencer au 17 juin. C'est-à-dire que le 17 juin, justement dans cette salle des menus plaisirs, l'homme qui dirige un peu le protocole de la monarchie, après une première réunion, demande aux députés du tiers-état, qui sont donc dans cette structure provisoire, de se retirer. Parce qu'on envisage une autre réunion qui va être finalement fixée pour le 23 juin, mais on laisse dans la structure en dur les deux ordres. Et à ce moment-là, il y a eu déjà des échanges de politesse entre en particulier Bailly et ce personnage. En particulier, il leur avait demandé de s'agenouiller devant le roi. Et Bailly refuse et disant nous ne nous agenouillons pas. Je vous laisse la parole parce que je.
Oui, on va faire une petite pause musicale. On va passer. Alors, nous passons le message de la radio et nous écoutons donc une pause musicale.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité. Thank you.
Chers auditeurs de Radio Goutrasi, nous avons le plaisir dans cette deuxième partie d'émission de recevoir François-Guillaume Lorrain, qui est historien, journaliste à l'occasion de la publication de ces lieux qui ont fait la France aux éditions Tempus. Et dans ce livre qui évoque de nombreux lieux, eh bien, il y a un endroit particulier que nous évoquons ce soir dans cette émission, qui est la salle du Jeu de Paume, qui se trouve à l'ombre du château à Versailles. Et François-Guillaume Lorrain nous raconte, commençait à nous raconter les tribulations de ce lieu, qui est un lieu un peu oublié, un peu laissé pour compte. On ne va pas dire abandonné, parce que il a été restauré, une jolie restauration, bien faite, avec de bonnes animations culturelles, tout récemment. Mais c'est un lieu qui est sorti un petit peu de nos mémoires, et pourtant sur lequel il y a eu beaucoup de projets d'ailleurs. Notamment la Troisième République, qui voulait y ouvrir un musée de la Révolution française. Ça, c'était en 1883, c'est ce que raconte au début de ce livre François-Guillaume Lorrain. Ça n'est jamais arrivé, ce musée n'existe pas d'ailleurs, il n'y a pas de musée nulle part en France, c'est étonnant, pourtant vu l'ampleur.
À part Avisy, dont je parlais tout à l'heure.
Ça, oui, exactement.
Oui. Mais oui, c'est un projet mort-né, comme beaucoup de choses qui concernent cet endroit, qui a été... En fait, on avait commencé à raconter que le destin de cette salle épouse un peu le crédit et la réputation de l'acte qu'il commémore, qui est ce serment du Jeu de Paume. Et quand les montagnards prennent le pas et l'emportent sur les Girondins, qui ont été au cœur et à la source de ce serment du Jeu de Paume, il commence déjà à tomber en discrédit. Il y a un autre moment qui le fait vraiment pâlir et qui le fait véritablement souffrir, et presque un arrêt de mort sur cet endroit, c'est le coup d'État de 18 Baumer, de Bonaparte.
C'est très étonnant, oui.
Et c'est,
oui.
C'est très intéressant parce que on voit là déjà la mémoire des lieux qui opère. Puisque, bon, vous savez, c'est un coup d'État qui a lieu à Saint-Cloud, dans l'orangerie de Saint-Cloud. Il y a le Conseil des 500 qui est réuni et qui essaye de réagir contre le coup de force de Bonaparte, de son frère et d'un certain nombre de personnages. Et la mémoire du serment du Jeu de Paume est évidemment encore très vivace. Hein, on n'est que 10 ans après. Et les députés, les membres du Conseil des 500 apprennent que Paris, ils ne pourront pas rentrer dans Paris, donc Paris est bloqué. On est à Saint-Cloud, donc on est à l'extérieur de Paris. Et ils envisagent, pour réagir politiquement contre ce coup de force, on les prive de pouvoir, de réitérer en fait ce serment qui disait que finalement les députés sont toujours finalement constituent la nation, quel que soit l'endroit, parce que c'est ça, c'est cette idée-là, c'était un problème de lieu entre la salle des menus plaisirs qui leur a été refusée par la monarchie. Ils ont cherché un endroit à eux où ils peuvent dire, eh bien, ici, nous faisons le serment de nous réunir et de ne pas en partir tant que la Constitution n'a pas été donnée pour le royaume. Donc, et de dire aussi, quel que soit l'endroit où nous serons, notre présence suffira à établir l'Assemblée constituante. C'est très important. C'est-à-dire, en fait, c'est la nation est partout dans la mesure où ses députés sont là. Et Bonaparte et son frère Lucien apprennent qu'ils songent à retourner dans la salle du Jeu de Paume pour refaire le serment, qui aurait une force symbolique très très forte. Et dès lors, ils en empêchent. Non seulement ils les en empêchent, mais dès lors...
Comment faisait-il d'ailleurs pour les bloquer ?
Il y a des troupes.
Hein. Ouais,
il y a des troupes, on les dissuade. On les refoule. C'est les fameuses scènes où il y en a qui sortent par les fenêtres.
Oui, c'est ça.
Pour Bonaparte, cette salle du Jeu de Paume, il n'a pas un grand amour pour les lieux révolutionnaires de la Révolution. Il est là, censé être là pour achever la Révolution, terminer le cycle de la Révolution, mais aussi passer à autre chose. Et donc, mais cet incident, cette référence va, pour lui, transformer la salle du jeu de paume en un lieu citoyen, mais qui est là, qui constitue une sorte d'insulte, d'offense, de menace pour son pouvoir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en fait de ce lieu qui vivotait depuis 4-5 ans, qui était redevenu mis un tripot, mis une salle de jeu de paume, mais qui marchait mal parce qu'en fait, pour les monarchistes, c'était pas un endroit heureux, puisque c'était un peu le début de la fin. Et pour les républicains, pour les révolutionnaires, c'était un lieu beaucoup trop sacré, qui avait commencé à être sacralisé entre 1789 et 1793, trop sacré pour qu'on y joue au jeu de paume. C'était un sacrilège. Donc, en fait, l'homme qui a repris la propriété, la gérance du jeu de paume était tout le temps au bord de la faillite. Et donc, ce lieu est un peu abandonné en 99. Et qu'est-ce que fait Bonaparte? C'est là aussi un acte fort, symbolique. Il le transforme en atelier de peinture et il y met son peintre officiel, Gros. Et qu'est-ce qu'il lui demande? De faire les pestiférés de Jaffa, c'est-à-dire de faire le grand tableau à sa gloire. Oui. Donc, quelle meilleure manière de poser sa patte, son empreinte, et de napoléoniser, en fait, complètement, enfin, de bonapartiser d'abord, et napoléoniser, et ce sera un atelier de peinture jusqu'en 1815.
Et ça redeviendra par la suite un atelier de peinture. François Guy-Laurent, j'ai une question à vous poser à ce sujet. Bonaparte concède la salle, donc, à son peintre Gros. Je pense qu'il y a un virus qui traîne avec, la salle du jeu de paume, là.
Je voulais passer. Hein,
je le traîne depuis plusieurs semaines. Et vous écrivez à cet égard que Gros se fourvoya en acceptant la commande de division 1 du combat de Nazareth. Pourquoi cela?
Parce qu'au départ, en fait, ça fait partie donc de toute la campagne d'Égypte et des suites de la campagne d'Égypte. Et ce combat de Nazareth avait été remporté par Junot, et qui peindre la gloire et faire choisir comme sujet principal un général qui n'est pas Bonaparte, ce n'était peut-être pas une bonne idée politique. Donc, il commence son combat de Nazareth, où Junot est en majesté, et Bonaparte lui fait comprendre qu'il y a un sujet plus intéressant qui est les pestiférés de Jaffa.
C'est ça l'histoire.
Voilà, et où il est quand même, dans une sorte de pose un peu royale qui reprend le geste thaumaturge des rois de France.
Ouais. Par contre, vous évoquez le destin de ces salles, pour beaucoup d'entre elles rasées, etc. Je suis très surpris par aussi le destin de l'orangerie du château de Saint-Cloud, où Bonaparte a réalisé donc le coup d'État de Brumaire, parce que son neveu Napoléon III, c'est lui qui a fait raser cette orangerie. Et donc, je m'interroge, alors, pour quelle raison Napoléon III a fait disparaître ce haut lieu?
Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce que d'abord, les gens pensent que le château de Saint-Cloud a disparu entièrement en 1870 lors de la guerre franco-prussienne à cause donc de boulets de canon envoyés par les Français depuis le Mont Valérien et qui est tombé par mégarde sur les châteaux qui étaient occupés par les Prussiens qui ont bien entendu laissé brûler puisque c'était le symbole même du pouvoir impérial de Napoléon III. L'orangerie, en fait, c'est assez simple. C'est un lieu de coup d'État. Or, qu'est-ce que Napoléon III essaye de faire oublier durant tout le Second Empire, c'est son propre coup d'État. Par conséquent...
Donc il rase ce qui ressemble à un coup d'État.
Surtout celui de son oncle, par ailleurs. Donc un coup d'État, c'est bien. Deux coups d'État, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et ailleurs, le rapport mémoriel de Napoléon III avec son oncle est ambigu. C'est-à-dire que, et on le verra par exemple aussi dans sa transformation de Paris et dans sa nomination de nombreux lieux qui sont dédiés certes à Napoléon Ier ou à sa famille, mais qui est aussi la famille de Napoléon III, mais un peu d'hommage, mais pas trop. Il y a une sorte d'abord de rivalité qui s'instaure très très vite. Ça, on peut le voir aussi dans les dénominations des axes, des nouvelles rues, avenues percées sous Haussmann. Mais il y a une sorte de méfiance, voilà. Mais la raison principale, c'est cette idée de coup d'État. S'il avait pu, d'une certaine manière, mais il ne peut pas, parce que le coup d'État du 2 décembre 51, il est préparé à l'Élysée. Mais bon, on ne fait pas détruire l'Élysée, puisque c'est un lieu aussi qu'il va occuper. Donc ça, il l'assume. Mais c'est très intéressant, d'ailleurs, cette destruction symbolique de l'orangerie.
Oui. Alors, je vous propose, François-Guy Leroy, si vous voulez bien, que nous revenions au 17 juin 1789, cette histoire donc du sermon. Et du charbon, du jeu de paume.
Oui, donc en fait, les trois ordres ne se rencontrent pas. Hein. Les deux, noblesse et aristocratie, restent dans le bâtiment dur et dans la structure avec ce qu'on appelle le plancher flottant, les 630 députés du tiers état, à qui on demande de se retirer. Ils refusent. Ils se déclarent à ce moment-là en assemblée. Bailly est d'ailleurs tout de suite nommé président le 17 juin.
Il est élu, par le tiers.
Tout de suite. Ensuite, il se méfie. Il y a une atmosphère, on pourrait dire presque de paranoïa qui s'installe, parce que il y a une autre réunion qui est prévue, mais lorsque trois jours après. Faut imaginer là un Versailles vibrillonnant de députés des trois ordres, les nouvelles, les fausses nouvelles qui circulent, les députés du tiers état qui n'ont pas de couvent comme l'ordre ecclésiastique pour être hébergés, qui n'ont pas de parents dans le château et les alentours pour être hébergés, sont éparpillés et vivent ensemble dans les hôtels, les auberges, chez l'habitant. Donc les nouvelles circulent très très vite. C'est très intéressant ce moment-là où il y a une sorte de crainte, de paranoïa, de peur. Et là, ils apprennent qu'il y aura une nouvelle réunion le 23. Ils veulent retourner parce qu'on se prétexte d'autres travaux à faire. Ils veulent retourner le 20, récupérer des documents qu'ils ont laissés à la salle des menus plaisirs, enfin dans leur partie à eux, et ils trouvent porte fermée. Et là, de nouveau, ils se disent, bon, on nous empêche, 630 personnes, vous ne les mettez pas dans une pièce, donc on les empêche de se réunir. Donc ils y voient une entrave à leur travail, à ce premier acte qu'ils ont fait le 17 juin, et ils se mettent à l'improviste. Véritablement, il faut imaginer. Alors, ils ne sont pas tous là, 630, ils sont pour l'instant quelques dizaines, à chercher un lieu où se réunir. Les grappes vont se retrouver, et la personne qui suggère la salle du jeu de paume, ça, c'est amusant, c'est le docteur Guillotin.
Oui, c'est ce que vous expliquez.
Le docteur Guillotin, qui connaît cette salle, l'existence de cette salle, parce qu'il est le médecin des palefreniers du comte de Provence, c'est-à-dire le futur Louis XVIII, qui réside évidemment à Versailles, les palefreniers aussi, donc il connaît très très bien Versailles, et il sait qu'il y a cette salle qui existe depuis le XVIIe siècle, construite sous Louis XIII, qui est assez grande par définition, hein, c'est un espace pommier. Donc, ils se dirigent, ils essayent à un moment un couvent, et là, on leur fait comprendre que, enfin, on les égare et on leur dit non, mais finalement, il y a à retourner au menu plaisir. Finalement, on a changé d'avis, on va vous y accueillir. Et en fait, c'est une illusion. Ils sont bernés et là, à ce moment-là, ils vont se diriger à l'improviste. Hein. C'est vraiment un lieu trouvé in situ.
Le fait de leur refuser de se réunir donc, au menu plaisir pour des raisons de travaux, c'est une manœuvre du pouvoir royal.
C'est une manœuvre, oui.
Oui, vraiment, c'est
bien
une
sûr,
volonté.
Oui, c'est une manœuvre parce que les forces monarchiques ont bien compris, d'abord par l'acte du 17 juin, qui est un premier acte politique fort, qu'il y a une prise d'indépendance, qu'il y a une déclaration, ils se constituent comme le représentant de la nation, surtout qu'en plus, à ce moment-là, Le tiers-État a essayé de contacter les membres du clergé
oui.
pour qu'ils se joignent à eux, parce qu'il y a encore question donc, du vote par ordre. Et d'ailleurs, dans la salle du jeu de paume, il y aura quelques ecclésiastiques.
Ils sont quatre, je crois.
Ils sont quatre. Il y a l'abbé Grégoire, il y a Rabaud Saint-Étienne, les deux autres. Il y a un membre du. En fait, il y a un représentant du clergé séculier, un représentant du clergé régulier. Et puis, il y a un quatrième membre qui m'échappe. Donc, aussi, on empêche un peu aussi cette idée de réunion. Hein. C'est tout simplement trouver un lieu. Et je reviens à Vizy parce que le serment qui avait été... la réunion qui avait eu lieu du Parlement du Dauphiné à Vizy à l'hiver 89, dans cette préparation des États généraux, avait lieu dans le jeu de paume. Donc peut-être que la mémoire, aussi se conjugue avec une adresse.
C'est ça.
Avec une adresse.
Un peu la salle, c'est étonnant aussi parce que le propriétaire est Alma, qui est l'oncle du futur grand acteur. Du fameux comédien. Vous écrivez que la salle est vide et on fait venir deux tonneaux et une planche.
Voilà, le bureau sur lequel sera signé, seront écrits les documents, où ils viendront. Alors, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'ils sont là tous les 630, comme le laisse penser, par exemple, le tableau.
Oui.
Non, ils vont pas tous, comme je l'ai dit, ils sont d'abord quelques dizaines. La nouvelle aussi va circuler. Ah, on a trouvé un endroit, bah, venez, rejoignez-nous. Donc, ils arrivent au compte-gouttes ou par grappe, et ils vont venir petit à petit signer. Les uns après les autres. Ils vont se présenter. Donc, ce n'est pas 630.
Signer le serment.
Voilà, signer le serment.
Ce n'est pas du tout le tableau, en effet.
Non, non.
Avec le vent, les rideaux,
le texte est écrit très vite. Il n'est pas long, d'ailleurs. Et on vient le signer au fur et à mesure.
Comment vient l'idée d'un serment? Vous écrivez d'ailleurs à cet égard que le tiers craint d'être dissous.
Parce que, d'abord, l'idée même du serment, faut penser à ces hommes et leur culture. Quelle est leur culture? Quelle est la culture des hommes de l'époque? C'est une culture antique. Et le serment des Horaces, des Curiaces, dont David vient de faire un tableau, hein, qui a été le grand tableau des années pré-révolutionnaires, c'est un acte qui coule, je dirais, qui coule de source. C'est un moyen de pérenniser, de marquer, on dirait aujourd'hui de marquer le coup, mais de donner à la parole une valeur opérationnelle et opérative, et donc d'en faire un acte politique.
Mmh.
Parce que on leur refuse, d'une certaine manière, pour l'instant, même s'il y aura une deuxième réunion le 23, mais qui va mal, là aussi, se passer, où, de nouveau, on va leur demander de se séparer, de nouveau, ils vont refuser. C'est là, à ce moment-là, que Mirabeau... Donc là, on retourne, en fait, dans la salle des menus-plaisirs, enfin, dans le lieu, dans les deux salles du menus-plaisirs. Donc, il faut bien comprendre que la salle du jeu de paume, dans l'histoire, n'est entrée dans l'histoire que pour quelques heures.
Oui, c'est vraiment très fugace.
C'est fugace. C'est un peu comme cet autre chapitre du livre que je consacre à la gare de Montoire avec la rencontre entre Hitler et Pétain. C'est quelques heures dans l'histoire d'une petite ville. Après, tout le monde s'en va.
Mais Mirabeau est au jeu de paume ou pas?
Oui, Mirabeau est au jeu de paume.
Non, ils sont pas, ce n'est pas lui qui a la main, en fait. C'est
non,
qui est étonnant.
Non.
Parce que...
Mais on a retenu, là aussi, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, mais qui est en fait... un plagiat, une ressucée, une reprise à la fois de ce qu'a dit déjà Bailly le 17 juin.
Oui, là pour le coup.
Là pour la première réponse
au menu plaisir.
Au menu plaisir. Et aussi, c'est même l'idée de ce qu'il y a dans le petit texte du serment du jeu de paume, dont je rappelle juste les dernières lignes.
Oui, s'il vous plaît, que raconte ce sermon ? Alors, vous écrivez, hein, François-Guillaume Laurin, dans ces lieux qui ont fait la France, aux éditions Puce, que ce sermon a été rédigé par Barnave et Chapelier.
Oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la
guillotiné,
plume.
Non
Ah ben, Barnave, oui.
Barnave, oui, Chapelier.
J'ai un doute sur... on connaît les lois, le Chapelier, très importantes, sur les la fin des corporations, sur les réunions, les syndicats.
Sur l'interdiction des syndicats.
Oui, sur l'interdiction des syndicats, sur le droit d'affichage.
Hein, oui.
Toute la loi d'affichage, en fait, avant la loi sur la liberté de la presse, en 1881, c'est la loi Le Chapelier, d'accord, 1791. Alors, moi, je vous lis simplement la fin, et c'est pour ça que je vous en parlais là, parce que Mirabeau, finalement, fait que paraphraser. La phrase est belle, mais c'est une paraphrase. Puisque la fin du serment, c'est « L'Assemblée nationale arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie. » C'est-à-dire qu'il se fixe un objectif, il se fixe une exigence de démocratie dans l'adversité, un courage, on se serre les coudes, en gros, et on refuse de céder à la force, à l'arbitraire, à l'intimidation. Il est plus question jusque-là d'intimidation. Et donc... On affirme son union, et on demande, on compte les troupes aussi. C'est une manière de compter les troupes, de dire qui est pour, qui est contre. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne veulent pas signer, ils s'en vont. Donc c'est un appel, en fait, à débattre aussi, à se réunir de nouveau.
Seul l'un d'entre eux refuse, c'est... Il s'appelle Do. D'ailleurs, on le voit sur le... Il est représenté hein, sur le
tableau. Les bras repliés.
Oui, c'est ça. C'est vraiment très clair.
C'est-à-dire dans une attitude de refus.
Oui, tout le monde accepte.
Mais on le laisse être là. Et d'ailleurs, Bailly dit, laissez-le là. Enfin, il a le droit aussi de ne pas être d'accord.
Oui, je lis ces quelques lignes. C'est un moment intéressant de ce serment, si vous le voulez bien. Un seul incident vient troubler cette cérémonie. Martin d'Auch, député de Castelnaudary, refuse de signer. Son voisin, Guillermine, tente de l'en convaincre. Bailly intervient. Ce serment de la démocratie incarne aussi la liberté d'expression. On ne saurait donc contraindre par la force les voix discordantes. Voilà pourquoi d'Auch est représenté par David, les bras repliés sur la poitrine en signe de refus. Certains députés malades se sont fait porter afin de pouvoir ajouter leur voix. Ainsi, mot petit, député de la Mayenne, que David représentera en vieillard alors qu'il n'avait que 47 ans. Et pourquoi d'Auch refuse de signer ? On ne sait pas.
Il faudrait creuser la biographie d'Auch, mais...
En tout cas, il est immortalisé dans le tableau de David.
Voilà.
C'est celui qui
fait... le seul, c'est l'homme qui dit non.
C'est ça. Et il fait aussi un certain cran.
Bien sûr.
Pour dire non, parce que
bien
tous
sûr.
Étaient...
Mais après, il n'y avait pas 600, il ne faut pas non plus imaginer 600 personnes qui prêtes à lui tomber sur le paletot. Hein.
Oui, il a fini guillotiné, j'imagine.
Pas forcément.
Non,
je crois parce que... Non, alors lui, dans mon souvenir, non, il n'a pas fini. Non. C'était un noble, hein, c'est d'Auch D apostrophe à UCF.
C'est un homme élu du tiers.
Oui, mais...
Peut-être... Alors, vous évoquez les mémoires de Bailly. Qui propose un autre récit d'ailleurs de cet événement. Que disent les mémoires de Bailly ?
Alors, alors là, vous me... Pour quel...
Pour le 20, vous dites, le 22 juin, le propriétaire de cette salle, donc Dalmau, annonce que la salle a été louée au comte d'Artois, donc elle n'est plus disponible. Et vous dites, Bailly, dans ses mémoires, propose un autre récit que cela. Bon, c'est pas grave, c'est un peu anecdotique. Hein.
Oui, nous
y reviendrons. Parce que par la suite, après, vous écrivez qu'ils vont à l'église Saint-Louis. Et vous évoquez l'église Saint-Louis et sa plaque extérieure.
Oui.
Rappelant la nouvelle réunion du tiers et du clergé.
Mais là,
serment y a été renouvelé.
Oui, parce qu'on est quelques jours plus tard. Et là, ils peuvent désormais s'adjoindre et rejoindre les forces de la. ecclésiastique. Donc, il y a d'autres abbés ou moines qui les rejoignent.
Mais c'est contre la volonté royale où ils occupent l'église de Saint-Louis ? Comment c'est...
Non, là, ils sont accueillis. Cette
ils sont accueillis.
Là, la porte est ouverte. La porte ne leur est pas fermée. Mais tout cela a lieu sous la surveillance des forces royales. Vous imaginez que la ville regorge de mouchards, d'espions, mais on n'empêche pas les choses de se faire. On n'a pas sans doute encore conscience de la force de
ça va déclencher tout ce
voilà,
que ça va.
Et de l'impact et des suites, des conséquences d'un tel acte. On n'a pas encore... parce que il va y avoir après, et d'ailleurs on a oublié que la nuit du 4 août se déroule encore à Versailles, la salle des menus plaisirs. La déclaration des droits de l'homme se passe encore...
Au menu plaisir.
Et oui, parce que le pouvoir politique reste à Versailles. Tant que il n'y a pas les journées d'octobre, qui va ramener le roi d'abord, et c'est dans un second temps... que l'Assemblée constituante, quelques semaines après, début novembre 89, arrive et occupe cette salle du manège dont je vous parlais, qui était une dépendance des Tuileries, c'est-à-dire à proximité, mais...
Vous nous avez expliqué la genèse de ce serment, qui se passe donc au jeu de paume, d'une manière fugace, puisque ça dure l'après-midi. La journée, en quelque sorte, avec les gens qui succèdent, qui signent cette déclaration, sauf un. Mais tout ça est limité, bien sûr, au tiers. À partir de quand, au menu plaisir, va-t-il y avoir la constitution des États généraux en assemblée constituante ? À partir de quel moment cela va-t-il se produire ?
C'est dans un second temps qui est l'intervalle, si vous voulez, entre le mois de juin... Et le mois d'août. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un aller-retour et un écho réciproque entre ce qui se passe aussi à Paris à partir du mois de juillet. Donc il y a des effets d'entraînement, de force, de pression qui modifient également le rapport de force. Et il va y avoir, bien sûr, un certain nombre de nobles qui vont s'engager pour... les forces, on va dire, jusqu'en 1791-92, la monarchie constitutionnelle et le courant qui domine les forces politiques de l'Assemblée constituante.
En nous avons un message d'un auditeur qui nous dit « J'ai encore en mémoire le serment peint par David qui ornait les pages de nos manuels d'histoire et qui m'émouvait alors. Mais tant de grandiloquence picturale, je pense aux rideaux qui s'envolent aux fenêtres, pour signifier le prologue de ce qui fut l'un des plus grands gâchis du siècle, me laisse maintenant de marbre, voire me fait sourire amèrement, puisque les horreurs de toute cette époque sont aujourd'hui connues. »
Bah oui, on ne connaissait pas la suite de l'histoire. Non. Alors ces rideaux qui n'existaient pas dans la réalité, c'est évidemment des rideaux symboliques. Il faut, dans ces plis que remarque votre auditeur, c'est évidemment le vent, le souffle de l'histoire qu'il faut faire... Entrer dans cette salle du jeu de paume, c'est une belle idée picturale, c'est une très belle idée picturale, mais en fait, c'était tout de même qu'une salle de jeu de paume, et en haut, sur les galeries, qu'est-ce qu'on mettait aux fenêtres ? Des filets
pour éviter les balles. Oui, c'est pour les balles, donc il ne peut pas y avoir de...
C'était pas des rideaux, mais un serment du jeu de paume avec des filets, c'est pas formidable.
Alors vous nous avez expliqué la suite de l'histoire là pour la mémoire en effet de ce lieu avec le changement effectivement politique le fait que le pouvoir soit pris par les montagnards et bien les commémorations passent à la trappe. David suspend effectivement ne va pas plus loin que son ébauche et la salle après est concédé à gros par Bonaparte, où il peint un certain nombre de ces tableaux, notamment les pestiférés de Jaffa. Et puis, l'autre moment suivant que vous racontez, c'est qu'on va y mettre les blessés de la bataille du Chesnay, Roucancourt.
Oui.
C'est le général commandé par les Prussiens. Alors ça, c'est en 1815.
C'est le dernier moment, c'est le baroud d'honneur dirigé par le général Excelmans.
Ah, c'est comme plus qu'un baroud d'honneur quand même.
Oui, c'est une belle bataille, mais c'est une belle bataille.
Les Prussiens ont pris quand même sacré coup sur la tête.
C'est quasiment la dernière.
Ah, c'est la dernière,
si je ne me trompe pas.
Au Chesnay, à côté du cimetière, où récemment encore, il y avait des maisons qui portaient les traces des impacts, elles ont été restaurées, etc. Et donc, il y a une partie des combats qui ont lieu au cimetière du Chesnay. L'ancien maire du Chesnay a eu la bonne idée de mettre une plaque. Ici, il y a eu la dernière victoire de l'Empire. Et c'est vrai que c'était une victoire. Ouais. Et le fait qu'on demande à Excelmans de suspendre le combat...
Résistance de l'autre côté de Paris, du général Doménil dans la forteresse de Vincennes.
Pareillement, oui.
Mais bon, ce n'est pas des combats. Là Roucancourt,
c'est une vraie bataille. Ouais, c'est une vraie bataille, oui.
Mais donc, on y entrepose les blessés. Exactement. On n'est pas loin, hein, Roucancourt.
Vous avez découvert ça.
En fait, pour faire ce chapitre, j'ai beaucoup travaillé dans la bibliothèque historique de Versailles. Et j'ai dépouillé énormément de textes, des petits textes, des petites revues, pour des anniversaires, parfois pour des commémorations, ou des revues, vous savez, des revues historiques, locales. Mmh. Donc j'ai glané ici à droite, à gauche, pour essayer de reconstituer, c'est mon dada, la chaîne des temps, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de trous. Bon, un tel parlait de la Restauration aussi. Qu'est-ce que ça devient sous la Restauration après le moment important de 1848 où on revient vers une République. Donc le Dru Rollin, hein, qui n'est pas n'importe qui est le ministre de l'Intérieur, le ministre des Beaux-Arts, des Musées, décide. C'est lui pour la première fois qui pense en faire un lieu muséal à vocation pédagogique, un lieu où la nation française pourrait venir s'inspirer de l'exemple donné par les aïeux, les ancêtres, dans cette résistance à la monarchie. C'est très compréhensible, hein. Ils sont des hommes de 1848 qui viennent d'abattre la monarchie de Louis-Philippe. Ça n'a pas... On y organise un banquet, parce que c'était la période des banquets républicains, le 20 juin 1849, et puis tout ça est vite balayé par Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui, alors là, on sait mémoriellement que tout ce qui est révolution, il déteste. Il efface, il détruit à Paris. Tout ça. Et donc, il va le transformer en tripot et en lieu aussi... faut pas oublier la période monarchie de juillet, c'est-à-dire Louis-Philippe, où ça redevient un grand salon, atelier pour peintre. Et vous avez là Horace Vernet, qui est le peintre qui va faire beaucoup de batailles pour la galerie des batailles.
Avec ses très grands formats.
À Versailles, au château de Versailles, avec le
c'est
musée.
C'est là où il peint ses grands formats
En particulier, le plus grand format, le plus grand tableau du 19e siècle, qui est la prise de la Smala. Il est chargé par Louis-Philippe de glorifier, d'orchestrer la représentation picturale, en particulier des batailles de l'Algérie, auxquelles a participé, qu'a dirigé un des fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale. Donc là, la prise de la Smala est peinte, qui est un immense tableau.
Donc c'est là qu'il est peint.
Oui.
Dans cette
après,
salle
ça devient tripot, de nouveau salle jeu de paume. Et là où ça devient intéressant, vraiment, c'est sous la Troisième République. Parce qu'on pourrait penser que tout de suite, on réinstaure. Mais non, il faut attendre... Alors, vous savez qu'en 1875, le Sénat et la République viennent s'installer à Versailles. Et le château s'en trouve... il s'installe au château. Et donc, s'en trouve bien embarrassé parce qu'il faut loger tous ces sénateurs. Il faut pouvoir... Et ces députés, il faut pouvoir qu'ils se réunissent, permettre qu'ils se réunissent. Et donc, on va vider une partie du château. En particulier, on va enlever... Il y a énormément de bricoles, de babioles, de statues, de bustes, de tombeaux qui traînent, et on s'en sort, en fait, on se sert de la salle du jeu de paume comme un débarras. C'est tout le crédit qu'on apporte à ce lieu, un débarras, on y met, on entasse, on entasse, on entasse. Ça dure quelques années. 1879, Sénat et Assemblée nationale retournent à Paris. Donc, on remet en place, dans le château, arrive ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le projet de Jules Ferry et de quelques autres d'en faire un musée de la Révolution, sans lendemain. Et alors là, au XXe siècle, ça devient à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut. Les protestants veulent à un moment veulent en faire leur temple, parce qu'ils n'ont plus de temple à Versailles. Ensuite, les questeurs qui sont à Versailles de l'Assemblée nationale en font leur salle de ping-pong. Alors, vous me direz, jeu de paume, ping-pong, jeu de balle, il y a une sorte de continuité.
Oui, continuité
Et pendant des
historique.
décennies, ça a été les lieux où, visiblement, ils avaient adoré le ping-pong, les questeurs. Donc, ça a été, ils organisaient des tournois là-bas. Ça a été aussi une salle d'examen. Enfin bon, n'importe quoi. En dehors, enfin, et il n'était plus question de rappeler la vocation mémorielle, enfin, ce qui s'était passé. Et c'est avec, en fait, les années 80, avec la préparation, le début de la préparation du bicentenaire, qu'on se dit quand même, bah, en 1759, il y a une date importante, c'est le 20 juin, c'est le serment du jeu de paume. Il faut faire une cérémonie, il faut faire une grande cérémonie. Ça fait partie du parcours obligé. Et donc Mitterrand demande qu'on retape tout, qu'on refasse tout, et qu'on fasse un début de parcours muséal. On va avoir la grande frise avec. On va rénover, parce qu'il y avait eu un début en 1848 et un début en 1883, avec la frise, avec tous les 630 noms, la statue de Bailly. Mais on ne met pas, comme je vous disais, le tableau de David, qui est depuis un certain temps, depuis le 19e, fin du 19e, au château de Versailles. On met une copie.
Alors, c'est Olivier Merson, hein, cette peinture. Est-ce que c'est vraiment une copie? C'est plutôt une interprétation, non?
Dans mon souvenir, je pense qu'il est allé un peu plus loin
Oui, il
que
est allé plus
l'ébauche.
loin, tout à fait.
Oui.
Qui a décidé, c'est à quelle époque, le tableau de Merson?
Alors, je ne voudrais pas vous dire de
C'est fin
bêtises.
19e, je pense.
Il me semble que c'est au moment où il y a le projet du musée de la
C'est ça,
Révolution,
c'est à ce moment-là
c'est-à-dire
où.
vers 1883. Dans mon souvenir, ouais.
C'est quand même une belle peinture, quand même.
Oui.
Elle est très évocatrice, hein, même si elle n'est pas tout
Mais
à fait exacte, puisqu'il y a les rideaux qui soufflent.
après, vous savez, le. Non, mais ça, les rideaux, c'est une idée de David. Mais de toute
Oui,
façon,
il
le
reprend cette
19e,
idée.
c'est le grand siècle de la peinture d'histoire
Oui.
où il est conseillé de faire n'importe quoi et d'interpréter. Et c'est assez amusant, d'ailleurs. Il y a des détails inventés, l'imagination. On est, si vous voulez, un peu dans une sorte le sillage pictural de ce que Dumas a fait en littérature. Voilà. Violons l'histoire, mais fais-le à condition de lui faire de beaux enfants.
François Guillaume-Laurin, si on vous nommait responsable du projet de la salle du jeu de paume, qu'est-ce que vous en feriez? Vous regrettez effectivement que
Non, mais
ce lieu
il y a
soit
eu une
oublié.
adaptation. Non, mais il y a eu une adaptation, comme vous l'avez dit, au nouveau médium et aux nouveaux manières de présenter le musée. Par rapport, moi, à la première visite que j'avais faite en 2015, 2016, il y a eu beaucoup du progrès. Après, moi, je pense que il faudrait tout simplement beaucoup plus communiquer et souligner au château de Versailles, en fait, qu'il y ait une véritable que le château de Versailles joue le jeu, dire voilà, il y a un lieu très important d'histoire qui est le jeu de paume. Mais bon, visiblement, les touristes étrangers, c'est trop
Ouais.
compliqué, je pense, pour
Et puis ils ont
eux.
relativement peu de temps.
Ils ont peu de temps,
C'est quand même moins
ils vont vers
grandiose
les
que
ors de la
visiter le château, quand
monarchie,
même, hein.
ils vont vers les ors de la monarchie,
Oui.
les appartements de la
Il y a les
reine,
Trianon, le petit
la
Trianon,
galerie
le
des
parc,
glaces,
enfin.
tout ça, le petit Trianon.
Oui.
C'est plus agréable, c'est plus beau, ça c'est certainement esthétiquement plus séduisant, c'est très bien présenté. Et une fois encore, là, il y est question de questions de politique qui très compliquée à saisir, à comprendre pour un étranger ou même pour un
Oui.
touriste qui ne s'intéresse pas de près à l'histoire de France. Mais on est dans le paradoxe où Versailles reste pour le monde entier, la ville de la monarchie, alors que c'est le lieu de la révolution politique. Voilà, je fais ce constat là, c'est tout.
Oui. Et c'est un lieu dont vous recommandez la visite. Est-ce que c'est pour vous évocateur quand on arrive sur place, quand on voit cette salle avec la statue de Bailly, la maquette de la Bastille d'ailleurs, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Enfin, une maquette de la
Bastille. Parce elles ont été mises en vente. Il y avait beaucoup de miniatures de la Bastille. Ça a été un grand gadget de la Révolution, la Bastille. Non, bien sûr, je recommande. Est-ce qu'on peut se rendre compte? Oui, je pense que si on a un peu d'imagination, s'il y a les récits aussi qui rendent compte un peu de cette fièvre, de cette ferveur, de cette urgence de ces députés qui se cherchent un lieu, qui sont SDF, hein, qui sont véritablement des sans toi, mais pas sans loi, et pas sans foi, et donc qui trouvent par hasard ce lieu. Moi, ça a une leçon sur les lieux, plus globalement, plus généralement, sur les lieux d'histoire, c'est que tout lieu peut devenir un lieu d'histoire. Et que ce n'est pas réservé, j'avais beaucoup raconté ça dans mon livre sur les justes, que tout lieu, même le plus modeste, hein, le plus anonyme, le plus obscur, le plus discret, le plus modeste, peut entrer dans l'histoire. Ça, c'est une des leçons de la salle du jeu de paume.
Alors, puisqu'on parle d'histoire, c'est un peu d'uchronie, la question que je vais vous poser, mais nous l'avons évoqué dans l'introduction. Pensez-vous que la monarchie aurait dû réagir autrement dans ces premiers jours où les États généraux se réunissent, où justement le tiers veut se transformer en assemblée constituante? Alors on les chasse, mais sans les bloquer pour autant, on les laisse trouver les menus plaisirs, ils font ce serment, puis après on a l'impression que le flot est inarrêtable. Que pensez-vous? C'est une question un peu candide, mais néanmoins...
C'est une question perverse, pas candide du tout. L'uchronie, toute l'uchronie est une perversité de l'histoire, perversion de l'histoire.
Vous avez toutes les capacités pour répondre.
Non, mais en fait, vous êtes
rédacteur en chef des pages d'histoire du coin.
Je vais vous répondre une seule chose.
Qu'aurait-il fallu faire pour arrêter cette révolution?
Je vais juste analyser ce que le roi a décidé, qui est déjà le début de sa ligne de conduite, qui sera pratiquement la sienne jusqu'à la fin, qui est le refus de la force, de l'emploi de la force.
C'est le refus de la violence, oui.
Refus de la violence, qui lui est conseillé, qui lui est recommandé.
Qui lui recommande d'ailleurs cela?
Moi, je ne suis pas un spécialiste de la fin des années de l'Ancien Régime, mais il y a ses frères, à commencer par ses frères, et bien d'autres. Il y a toujours eu les partisans de la manière forte, et puis de la conciliation, du dialogue, voilà. Et c'est le début, de même que le 6 octobre, on lui a conseillé aussi de faire répondre et de donner l'ordre du feu, et qu'il a refusé.
Mais c'est sa décision,
oui,
le 6 octobre, de ne pas faire ouvrir le feu.
Mais c'est aussi sa décision au mois de juin.
Oui.
Et il est très au courant, il est tout à fait au fait de ce qu'il se passe.
Oui.
Il essaye à un moment de faire fermer les salles pour désamorcer, en fait. C'est intelligent, c'est habile, ça marche pas. Voilà.
Et lorsque vous avez enquêté sur la salle du jeu de paume, est-ce que vous avez trouvé des documents qui évoquent l'envahissement du château, justement, dans la nuit, au petit matin du 7 octobre, hein, je crois, où les grilles étaient ouvertes? Les grilles étaient ouvertes et la porte aussi qui menait aux appartements de la reine était ouverte. Il y a des documents là-dessus ou...
Ah, moi, j'ai pas travaillé là-dessus.
Rien, vous n'avez pas trouvé de choses là-dessus.
Je restais dans mon couloir de nage qui était, dans mon cours de la jeu de paume. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, et peut-être on a quelques minutes pour en parler, mais c'est plus généralement la part mémorielle laissée, accordée à la Révolution française. La suite de l'histoire à Paris. Qu'est-ce que la Révolution, par exemple, avait fait sur le moment? Comment elle s'était inscrite? Est-ce qu'elle s'inscrivait sur le long terme? Il y a ceux qui pensent que tout ça s'est fait dans l'urgence et qui estimaient que... Mais en même temps, on voit bien que dans le programme des rues, il y a tout un travail nominal de débaptisation qui est important. Ils s'inscrivent sur le long terme, ils enlèvent les noms des saints, ils rebaptisent un certain nombre de places.
C'est un sujet que vous souhaitiez évoquer justement.
Oui, parce que c'est l'objet de mon prochain livre qui ne sortira que dans un an.
Pas attendre un an. Pourquoi est-ce important pour vous ce sujet?
Parce que ça reste, moi je travaille toujours sur la mémoire des lieux, c'est-à-dire l'usage de l'histoire par les politiques. C'est ça qui m'intéresse. Donc, quand Paris mémorialise à la fois l'histoire de France et l'histoire du monde, d'ailleurs, aussi, parce qu'elle pense que Paris est au centre du monde et que Paris est la capitale d'un pays qui se veut aussi le havre, le refuge de tous les pays et les réprimés. Donc, il y a beaucoup de raisons pour mettre à l'intérieur de Paris, dans les 6000 rues et plus encore, une mémoire du monde, une mémoire de la France. Et donc, cette mémoire, elle va évoluer au fil du temps, au fil des régimes. Elle va être écrite, réécrite, tricotée, détricotée à travers ces noms-là. Et c'est vrai que la Révolution marque, pour le coup, un tournant majeur, puisqu'il y a un acte sur lequel j'ouvre mon livre, l'introduction, du marquis de Villette, qui est un proche, un ami de Voltaire, qui fait partie de ces aristocrates favorables aux idées de la Révolution, qui habite quai des Théatins. Alors, quai des Théatins, ça vous dit peut-être rien, qui a un hôtel particulier où est mort Voltaire, en 1778, et qui un jour d'avril, non, un jour de juin, pardon, 1791, le jour de la mort de Mirabeau, il descend chez lui avec un marteau, un ciseau à pierre, et il commence à marteler l'inscription en bas de chez lui, quai des Théatins. On est au bord de la Seine, rive gauche. Il dit, non, les Théatins, c'est le monde ancien. Ça n'a plus à être l'adresse à laquelle je réside, où a été le mausolée, enfin le dernier domicile de Voltaire. Il faut rendre hommage à l'homme qui a inspiré les idées nouvelles de la Révolution, au maître à penser de la Révolution. Donc, il faut inscrire dans l'espace public, à la vue de tous, et lui faire comprendre que voilà, c'est un peu son Golgotha, ici, à Voltaire. C'est là où il est mort. Alors, pas dans une crucifixion, mais... Et il inscrit, il grave plutôt...
Lui-même
qu'est Voltaire. Et le quai Voltaire que vous connaissez.
C'est cet acte
fort qui va donner l'exemple. Et il rentre chez lui, il remonte, et il écrit au club des Jacobins. Et il dit, écoutez, voilà ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous l'aviez plus ou moins suggéré dans une réunion d'un club. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Mirabeau, qui vient de mourir, eh bien, il est mort où? Rue de la Chaussée-d'Antin. Mais le marquis d'Antin, c'est un noble, était lié à la Pompadour, à la maîtresse de roi, tout ça, c'est mon ancien. Allez, rue Mirabeau. Et puis Rousseau, l'autre grand maître à penser de la Révolution, il est mort où? Rue, il a habité où? Rue Platrière. Eh bien, il faudra pouvoir déambuler, penser à Rousseau et à tout ce qu'il nous a apporté dans Paris. Ça devient, dans les jours qui suivent, la rue Jean-Jacques Rousseau.
Qui prend la décision? C'est une initiative,
qui va être reprise par la Commune de Paris, parce que se crée une mairie de Paris en 1789, dont Bailly est le premier maire. Hein,
oui.
Et ils vont prendre un certain nombre de mesures. C'est là qu'on connaît la place de la Concorde, mais c'est là que la rue du roi de Sicile, le roi, plus question de roi de Sicile, plus question de roi. Donc la rue des droits de l'homme. Mais la rue de Condé, le prince de Condé, plus de prince de Condé. Allez, la rue de l'égalité.
Eh bien, François-Guillaume Lorrain, nous attendons avec impatience votre prochain livre et votre prochaine visite à Radio Courtoisie pour nous raconter cette petite et grande histoire. Elles sont indissociables, telles que vous le faites de manière passionnante dans ces lieux qui ont fait la France. Et ce soir, vous êtes venu nous parler de la salle du jeu de paume à Versailles, livre que vous publiez aux éditions Tempus. Merci beaucoup à vous, François-Guillaume
Lorrain. Et merci pour votre tisane qui m'a permis de continuer cette émission.
Merci à Stéphane à la technique. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 24 mai 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.